Maître, le salut sera-t-il une affaire d'élite, d'une minorité de gens triés sur le volet, ou sera-t-il donné à tout le monde ou presque? Combien y aura-t-il de sauvés? Chers et frères, la question rapportée dans cette portion d'évangile peut, de près ou de loin, nous intéresser, au moins en autant qu'elle sous-tend une reconnaissance, trahit un aveu. Nous sommes habités par des inquiétudes plus ou moins raisonnées et plus que moins dans le cas présent, car il paraît clair que nous sommes, en tout cas, oui, c'est le cas de plus d'un, nous en sommes même convaincus. Le meilleur n'est pas dans l'instant présent. L'essentiel est ailleurs. Il est même peut-être à venir. Mieux qu'hier et moins que demain. Aussi, c'est essentiel, ce mieux-être, le souhaitons-nous, l'espérons-nous de tout notre être, de toutes nos forces. Nous attendons ce jour béni où, délivré des réalités présentes, libéré de nos servitudes, de la contingence, nous pourrons enfin contempler, pour ainsi dire, de visage à visage, ce vers quoi nous tendons de tout notre être, Dieu, notre paix, notre bonheur, notre béatitude sans fin. Mais s'il est vrai que nous l'espérons, l'obtiendrons-nous vraiment? Serons-nous vraiment à ce rendez-vous final? Ferons-nous partie de ce festin eschatologique? Serons-nous admis au banquet du royaume? Bref, qui sera sauvé et qui ne le sera pas? À travers l'évangile de ce jour, Jésus nous dit sans ambiguïté qu'il y aura des surprises. Il y aura comme un renversement de l'ordre des choses, une commotion, une révolution. De même que le meilleur n'est pas donné tout au début, mais le sera peut-être à la fin, de même, les premiers dans ce monde-ci seront peut-être les derniers dans l'autre monde, et les derniers, les premiers. La logique du royaume, comme toujours, semble être à l'opposé de la logique des hommes. Les valeurs évangéliques sont décidément, chers et frères, aux antipodes de celles que fait miroiter le monde. Étant donné le présage, sans curiosité déplacée, peut-être serait-il intéressant de demander qui sont pour l'instant ces premiers, qui seront peut-être les derniers, et ces derniers qui seront les premiers. Difficile, évidemment, de le savoir avec exactitude et de manière arrêtée. Cela dit, levons quelques tabous. Le contexte de cette annonce permet de supposer que les premiers en question renvoient au moins en un premier temps aux Hébreux, oui, aux Juifs de l'Évangile. Comprendre le peuple dit béni de Dieu, son fils premier-né, la vigne qu'il a arrachée d'Égypte, au devant de laquelle il a fait place nette. Mais avec ces Hébreux, il faut comprendre en vérité tous les ouvriers de la première heure, le peuple chrétien inclus, qui croit avoir amassé assez de mérite pour franchir le cap, traverser le seuil et s'inviter, s'asseoir à la table des noces de l'agneau, tels des invités de marque et en conséquence pleins de présomptions comme des goujats qui pensent qu'après tout il est du devoir du maître de bien les accueillir et bien les régaler. Quant au dernier, ce sont possiblement les goïmes, les gentils, ceux qui sont apparemment de loin ou qui arrivent de loin, ceux que le peuple de la Bible se plaisait à appeler prépuces, c'est-à-dire les incirconcis, les étrangers de la promesse. Mais en même temps, ce sont peut-être en dernier lieu tous ceux que les héritiers de la promesse et les croyants de tous bords considèrent comme des mécréants, des agnostiques, des athées, et qu'ils regardent de haut comme des égarés, des perdus à tout jamais. Puis, on ne sait par quel miracle, les voilà vraisemblablement présents, là, à l'heure, à table, avec le maître. Pharisiens, moi, je vous dis, en vérité, les prostituées, les publicains et les pécheurs vous précéderont dans le royaume, avertit Jésus dans l'Évangile. Ces étrangers de la promesse représentent donc la cohorte des ouvriers de la dernière heure, les publicains et les païens, qui n'osent pas lever les yeux vers le ciel et qui sont pourtant entrés dans l'Alliance par le miracle de l'incarnation du Dieu qui s'est toujours fait proche de l'homme, de tout homme, le Dieu qui a toujours rejoint l'homme dans sa misère, qui est tout entier miséricorde et qui ne fait pas exception des personnes. Gens de près, gens de loin, ouvriers de la première comme de la dernière heure, tout le monde est finalement invité à prendre place au festin des noces de l'agneau. Mais pour y parvenir, il est également demandé à chacun de s'efforcer, de lutter pour passer par la porte étroite, cette porte que refusent naturellement la plupart des gens parce que trop difficile d'accès. Aussi, cette majorité aura-t-elle choisi peut-être de s'exclure, se soustraire du compagnonnage du maître. À tout le moins, en aura-t-elle pris le risque pour n'avoir pas tenté de faire le minimum demandé. Elle aura donc pris le risque de refuser le rendez-vous eschatologique et le manquer. Mais en même temps, chers et frères, soyons bien d'accord, l'Évangile d'aujourd'hui, nous l'avons entendu, rappelle que le critère définitif de l'élection ne sera pas si l'on avait toujours été sagement à la messe, si l'on avait auparavant mangé ou bu avec le maître du festin, si l'on faisait partie de son cercle immédiat, de ses habitués ou non, mais bien plutôt si l'on avait fait ce qu'on devait faire. On y sera admis dans la mesure où l'on a été un bienfaiteur du genre humain, à tout le moins de tel homme ou de telle femme placée sur notre chemin, qui nous était d'une manière ou d'une autre un prochain. Au cas contraire, le maître sera obligé de constater qu'il ne nous connaît pas parce que nous aurons été injustes, parce que nous aurons mal fait. Le texte d'aujourd'hui fait écho naturellement à celui du jugement dernier que nous pouvons trouver dans l'Évangile selon Matthieu. L'heure viendra où il faudra siéger. Le maître départagera les hommes en fonction de ce qu'ils auront fait. À droite, pour la vie éternelle, ceux qui auront visité les prisonniers, donné à manger aux affamés, et à gauche, pour la perdition, ceux qui pouvaient le faire et qui ne l'avaient pas fait. Demandons à Dieu de nous maintenir dans le chemin du bien et de sans cesse rallumer en nous les feux de sa pressante charité. Amen.